À l'occasion de notre prise de contact avec le livre de Job, notre première étude d'hier, nous avons pu examiner le plan de Dieu. Nous avons vu comment et pourquoi l'Éternel Dieu accepte que Satan comparaisse devant lui, malgré certaines objections qui peuvent se présenter à notre pensée, à nous évidemment, qui jugeons d'une façon très limitée, très imparfaite, et qui jugeons surtout avec l'éclairage qui est le nôtre, n'est-ce pas, l'éclairage de notre esprit, et qui ne peut pas correspondre évidemment aux pensées de Dieu. Et maintenant, nous allons continuer notre étude en examinant d'assez près ce dialogue entre Satan et l'Éternel Dieu. Satan, après avoir entendu l'Éternel lui affirmer que Job est un homme intègre et droit, qu'il n'y a sur la terre que lui, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un cas unique, un cas extraordinaire, il craint Dieu, sa piété est magnifique et plaisante à Dieu. Alors Satan répond, oui, il ne nie pas les faits. C'est un fait, Dieu vient de l'affirmer, il ne nie pas ce fait, mais il insinue quelque chose, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Satan, nous avons rappelé hier que dans l'hébreu, il y a un article, si bien qu'on devrait littéralement traduire « le Satan ». Qui signifie l'adversaire. Mais Satan étant un nom propre, ici désignant une personne, on a l'habitude dans la traduction de ne pas faire apparaître l'article. Satan est donc l'adversaire, il est l'auteur du mensonge, comme le Seigneur Jésus l'a si bien déclaré, il est l'initiateur du mal, et il n'emploie pas sa puissance, car il dispose d'une grande puissance, il ne l'emploie pas sans intelligence, loin de là. C'est une chose que nous avons à savoir, c'est que l'ennemi dispose d'une grande intelligence. S'il est le fin séducteur, c'est bien qu'il sait utiliser la finesse de ses observations et de la pénétration qu'il peut faire, des mobiles, des faits, pour être toujours apparemment couvert par de sages raisons. L'ennemi s'arrange toujours pour avoir raison, apparemment, dans ce qu'il dit. Lorsque il tente le Seigneur Jésus, ce n'est pas avec des arguments dépourvus de logique, de raison. Si tu es le Fils de Dieu, tu as faim, ordonne, tu peux ordonner à ces pierres de devenir des pains. C'est vrai, c'est littéralement vrai. Tu peux te jeter du haut de ce portique, et il y a une parole pour toi dans l'Écriture de Dieu, dans les promesses de Dieu, les anges te porteront afin que ton pied ne heurte pas. Tout cela a une apparence de vérité. Où donc se trouve la faille? Où est l'erreur? Eh bien, elle est dans l'esprit de la proposition de Satan, mais non pas dans le contenu de ce qu'il dit. Il s'arrange pour que ce qu'il dit soit sage et vrai, mais, bien entendu, il y a dans la proposition quelque chose qui tient du mensonge, et c'est là l'habileté du séducteur. Il est donc apparemment toujours couvert par une certaine sagesse, il ne se départit jamais de son extérieur, qui est défini par une expression que nous connaissons bien, l'ange de lumière. Il est habillé, Lucifer, le porte-lumière, il est l'ange de lumière. La lumière est son vêtement, il se déguise de la lumière. Intérieurement, il n'a pas la lumière, mais il se déguise de la lumière qui est son vêtement. Nous parlons de lui à travers un personnage plus directement visé, le prophète Ézéchiel, en son chapitre 28, nous dit ceci, « Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, le chérubin protecteur, comme il est appelé dans ce passage, était donc plein de sagesse, parfait en beauté, et dispose d'une grande intelligence. Cependant, c'est le mal qu'il fait. Il emploie son intelligence au mal, pour quelle raison ? Tout simplement, parce que lorsqu'on agit en dehors de Dieu, il faut que nous le sachions cela, lorsqu'on agit en dehors de la volonté de Dieu, que l'on se mette en travers de cette volonté, nécessairement on fait le mal. Jésus a dit, il n'y en a qu'un qui est bon, c'est Dieu, ce qui veut dire aussi, il n'y en a qu'un qui puisse faire le bien, d'un seul le bien peut provenir de Dieu lui seul. Et lorsque nous faisons quelque chose qui est situé en marge de la volonté et nécessairement s'inscrit en faux contre cette volonté, eh bien, c'est le mal que nous faisons et non le bien. Ça, c'est une chose, évidemment, que nos maîtres à penser de la terre n'admettront peut-être pas facilement aujourd'hui, n'est-ce pas ? Dans leur position d'agnosticisme ou d'athéisme qui est la leur. Mais pourtant, cela est la vérité. Seule la volonté de Dieu, tout ce qui se place dans la ligne des volontés de Dieu, seul cela peut accomplir le bien, tout le reste n'accomplit que le mal. Plus ou moins décelable sur le moment, mais c'est le mal sûrement. Voilà pourquoi Satan fait le mal et ne fait que le mal. Ainsi, il ne nie pas les faits. Se rapportant à Job, faits dont Dieu vient de lui faire l'énoncé, mais il remonte au mobile caché dans le cœur de cet homme. Il remonte aux motivations profondes de cette conduite si remarquable que l'Éternel vient de mettre en lumière. Les motivations profondes, que sont-elles ? Il s'y entend dans ce domaine. Il s'y entend très bien. Littéralement, voyez-vous, et d'autres versions traduisent littéralement, le verset 9 donne ceci. « Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce gratuitement que Job craint Dieu ? » Est-ce gratuitement ? Notre traducteur a mis « est-ce d'une manière désintéressée ?» Il a voulu, si vous voulez, préciser, mieux adapter au récit, au contexte, sa traduction, mais littéralement c'est ça. « Est-ce gratuitement que Job craint Dieu ? » C'est-à-dire... N'est-ce pas par une sorte de convention tacite ? N'est-ce pas en misant sur la fidélité de Dieu, bien connue pratiquement, que Job a établi sa propre fidélité ? Il a remarqué par une certaine finesse d'observation que Dieu était fidèle. Nous sommes dans le temps des patriarches, on sait, nous l'avons mis en évidence la dernière fois, l'on savait déjà beaucoup de choses sur la manière de Dieu et sur ce qui était agréable à Dieu, sur en somme aussi la piété qu'il convenait d'apporter à Dieu pour lui plaire. Alors Job a remarqué que lorsque l'Éternel est bien servi, il est fidèle, lui, et il répond par des bénédictions qui assurent le bien-être, la prospérité, la sécurité, n'est-ce pas ? Job a fait ce constat, et par conséquent, il en aurait, n'est-ce pas, tiré cette sage résolution d'être lui-même fidèle à Dieu pour bénéficier de la fidélité de Dieu. Il s'agirait donc là d'une convention, d'une sorte de convention non avouée, une convention tacite. Dieu comble son serviteur Job, le protège, ainsi que tout ce qui lui appartient, et Satan de dire, en somme, tu le fais prospérer, cela, Job l'a bien compris, et tenant avant tout à sa sécurité, à ce bonheur terrestre qui lui tombe du ciel, il s'ingénie avec application, avec constance, à maintenir intacte la cause de ces grands bienfaits qui lui viennent d'en haut, et c'est de là vient sa piété. Sa piété n'est pas autre chose que cela, une application, n'est-ce pas, à surtout ménager la cause de cette prospérité qui lui est accordée d'en haut. N'est-ce pas ? Vous voyez, en quelque sorte, n'est-ce pas, cette position intéressée de Job, c'est ce que Satan expose et prétend. Mais Satan désire que le propos soit apporté non pas sur la conduite extérieure de Job, conduite sur laquelle il n'a rien à dire, mais sur les sentiments de son cœur. Quels sont véritablement les sentiments de cet homme si pieux ? Qu'y a-t-il dans son cœur ? Quels sont ses sentiments pour le grand bienfaiteur qui lui assure tant de prospérité et tant de protection ? Eh bien, Satan prétend que ses sentiments sont inexistants et que la piété de Job ne provient pas de sentiments qui l'aurait dans son cœur à l'égard de Dieu. Et alors Satan propose à Dieu d'administrer la preuve de ce qu'il avance, la preuve qu'il n'y a point de sentiment dans le cœur de Job, en suspendant soudain la protection et même qu'il lui accorde et même en portant atteinte à ce qui lui appartient et qui lui est si cher. Ainsi, Satan avance avec autorité qu'il n'y a en cet homme remarquable et unique sur la terre aucun sentiment d'attachement à la personne de Dieu, aucun amour. Il n'y a pas d'amour. Voilà ce que dit. Tout est intérêt de sa part, purement intérêt, un intérêt bien compris, bien calculé, tout est intérêt, mais il n'y a point d'amour. Il y aurait même une complète indifférence qui résulte des propos de Satan, une complète indifférence, voire même, plus que cela, une disposition toute prête à renier Dieu si Dieu cessait de le bénir. Il y a là une disposition dans son cœur qui apparaîtrait, et cette disposition le porterait à renier Dieu. La traduction n'est pas très exacte de traduction de nos Bibles. Je ne sais pas ce que la Nouvelle Bible, la Bible à la Colombe, a pu mettre, je ne l'ai pas avec moi, Mais le verset 11 traduit ceci, « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Cette traduction est assez fautive. Voici comment on pourrait traduire ce verset. « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, cela peut aller. » Et puis alors, il n'y a pas de « je suis sûr », ça n'existe pas dans le texte. Ça n'existe pas. « Il te renie en face. » Alors, pour faire comprendre le texte, en général, les traducteurs ont ajouté, non pas « et je suis sûr », mais plus exactement, « on verra s'il ne te renie pas en face. Tu verras bien qu'il te reniera en face. » Je suis sûr, le « je suis sûr » n'est pas très bon ici. Vous voyez, ce verset est donc à modifier. Hein? Alors, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et on verra s'il ne te renie pas en face, c'est-à-dire ouvertement. Il va te renier ouvertement. Parce que, actuellement, ses sentiments restent bloqués, blottis dans son cœur. On ne peut pas les voir se manifester, il est comblé. Et il est adroit, ce genre. Alors, il sait que sa piété lui procure cette prospérité. Il ne va pas, bien sûr, s'en départir. Et avec sa piété, il apparaît comme un adorateur de Dieu. Oui, mais dans son cœur, il y a une disposition à renier Dieu si les choses changeaient. Voilà tout ce que Satan insinue. Et Satan se fait donc garant du changement qui ne manquera pas de se produire en Job s'il est atteint dans sa prospérité. Il va renier Dieu ouvertement et l'on saura alors, bien sûr, à quoi s'en tenir sur les sentiments de son cœur pour Dieu. C'est là qu'on va voir les véritables sentiments de son cœur. Vous voyez, n'est-ce pas? J'ai évidemment paraphrasé tout cela pour bien vous faire comprendre quelle est la suggestion, l'insinuation de Satan. Eh bien, cette insinuation et cette proposition qu'il fait à Dieu de toucher à ce qui lui appartient est d'une gravité que généralement l'on ne mesure pas lorsqu'on lit ce texte tellement instructif et tellement intéressant. Il y a dans l'accusation de Satan une gravité exceptionnelle. Et l'on voit bien qu'il faut que ce soit ce précédent chérubin protecteur qui mettait le sceau à la justice de Dieu et qui connaît tant de choses pour vraiment avoir atteindre Dieu à ce point-là. Et vous allez voir comment il atteint Dieu. Au dire de Satan, l'homme dont la piété est un modèle n'éprouve en réalité aucun amour pour Dieu. Il connaît seulement et avec intelligence son intérêt. Et son intérêt est de servir Dieu fidèlement. La piété magnifique de Job n'est nullement le produit de l'amour, mais celui d'un intérêt bien compris. Ainsi, et voilà, n'est-ce pas, où nous arrivons à découvrir la gravité de l'insinuation de Satan, ainsi, Dieu n'est pas aimé. Il dit en somme à l'Éternel, tu n'es pas aimé, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour ta personne, tu n'es pas aimé, c'est par intérêt, c'est à cause de ta toute-puissance et de ta fidélité que Job te sert comme il le fait et te montre cette piété qui te plaît, mais tu n'es pas aimé, mais cela ne procède pas d'un amour du cœur. C'est grave, c'est infiniment grave. Dieu, donc, dit Satan, Dieu n'est pas aimé. Sa toute-puissance qu'il emploie au bien de cet homme, sa toute-puissance lui procure la soumission de Job. Mais non pas l'amour de son cœur. Il n'a devant lui, en somme, qu'un courtisan. pas autre chose qu'un courtisan. Et cela est infiniment grave. Dieu, donc, n'est pas aimé pour lui-même. Sa toute-puissance et sa fidélité protectrice présentent même des inconvénients certains. Il comble, il est celui qui peut combler, il est celui qui peut tout donner, qui assure, et il le fait avec régularité, avec fidélité, parce que lui, Dieu, il aime. Mais alors, on est là pour tendre les mains, pour recevoir, pour goûter, pour être satisfait quand on a l'intelligence d'un Job, eh bien, évidemment, on donne à Dieu ce qui lui plaît, en somme, on apporte à Dieu la monnaie qu'il désire. Voilà, n'est-ce pas, ce que Satan a insinué, la toute-puissance de Dieu ferait donc barrage à l'amour de retour, à l'amour de l'homme en retour, de l'amour de Dieu. Il y aurait de l'amour de la part de Dieu, mais non point chez l'homme. L'homme ne serait qu'un personnage froidement intéressé. La toute-puissance de Dieu et sa fidélité poussent donc un homme pieux comme Job à une adoration extérieure, mais n'ouvre pas le cœur des hommes à Dieu. Voilà la terrible insinuation de Satan. Et à ce compte, Dieu, qui est bon et tout-puissant pour protéger et pour bénir, serait incapable de se faire aimer pour lui-même. Incapable de se faire aimer pour lui-même. Tout cela est dans le propos de Satan. Or, Dieu est amour. Nous le savons. Et s'il est amour, il ne l'est pas d'aujourd'hui ni d'hier. Il est amour depuis le fond de l'éternité. Il a toujours été cela. C'est sa nature, c'est son essence. Dieu est amour. Dieu désire l'amour. Et son grand mobile, on peut dire son unique mobile, est d'engendrer l'amour chez ses créatures. Et de s'entourer de créatures libres, comme les hommes, à son image, à sa ressemblance, qui l'aiment autant qu'elles sont aimées de lui. Voilà quel est le mobile de Dieu. Des créatures semblables à lui, à son image, qui vont l'aimer, dans la liberté, car il faut à l'amour la liberté. Eh bien, Dieu l'a consenti, cette liberté, pleinement. Alors, et il veut que l'homme l'aime comme il est aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dira le Seigneur Jésus à ses disciples, comme je vous ai aimé. Voilà ce que Dieu veut. Et par conséquent, Dieu veut que sa créature, l'homme, ne fasse rien que par amour. Il veut des créatures dont la fidélité envers lui traduira vraiment leur profond amour et non pas procédant d'un vil calcul, d'un vil intérêt. Il veut que la fidélité, il la désire la fidélité, il aime la piété, mais il veut que cette fidélité, cette piété naisse de l'amour du cœur, l'amour pour Dieu. Un amour indépendant de toute rétribution et de tout avantage. Or, il résulte du propos de Satan que Dieu a échoué. Dieu aurait échoué. Satan ne dit rien de moins que cela à Dieu. Tu crois que c'est d'une manière désintéressée? Tu crois que c'est gratuitement? Non. C'est par un intérêt certain qu'il se présente à toi comme le modèle des hommes pieux. Jusque-là, Dieu aurait échoué et sa gloire serait en cause. Car la gloire de Dieu ne peut rayonner que là où est l'amour. Si l'amour n'est pas quelque part, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la vie, car l'amour, la vérité et la vie se tiennent, ils forment une chaîne, des éléments forment une chaîne, une véritable chaîne, que l'on ne peut pas scinder. Là où il n'y a pas l'amour, il ne peut pas y avoir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne peut rayonner que lorsque l'amour est exercé. Si bien que Dieu serait contenu dans le rayonnement de sa gloire. Et jamais, sur la terre, parmi les hommes, sa gloire ne pourrait éclater, ne pourrait se manifester, car il manquerait toujours l'amour dans le cœur de l'homme. C'est grave, c'est infiniment grave. Satan, n'est-ce pas, qui s'est fait l'égal du Très-Haut, vient en somme devant l'Éternel lui dire, eh bien non, moi je conteste ton plan, ton dessein, je conteste cela parce que ça ne marche pas du tout. Ton plan, ton dessein, ne peut pas s'accomplir. L'amour, tu ne le trouveras jamais. C'est une chose terrible. Et n'oublions pas, chers amis, pour comprendre la gravité de cette intervention de Satan, que le Seigneur Jésus va lui-même nous rappeler ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. Il n'y en a pas de plus grand. C'est le commandement essentiel d'où dérive tout le reste. Rien ne peut être construit sans ce commandement mis en place. Supérieurement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout ton être. Et le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Et toute l'Écriture de nous dire, ça c'est la clé de tout. Et Satan, devant l'Éternel, de dire, eh bien la clé, elle est illusoire. Elle est illusoire, cette clé de l'amour, parce que ça n'y compte pas. Moi, Satan, je te le dis, n'y compte pas, tu n'as pas l'amour des cœurs, tu ne l'auras pas, avec ta toute-puissance et ta fidélité qui comblent les hommes, tes créatures, et tu n'auras quoi ? Que des gens serviles, que des gens intéressés, que des courtisans à tes pieds. Vous sentez la gravité de la chose. C'est tout le plan de Dieu qui est mis en cause. Tout le plan de Dieu, le plan de salut pour l'avenir, le royaume de Dieu, tout est mis en question. Alors, n'est-ce pas, si j'insiste là-dessus, pour vous montrer cette gravité de l'atteinte que Satan se permet de porter au dessein de Dieu, eh bien, c'est pour vous faire comprendre aussi, et il faut que nous comprenions, n'est-ce pas, pourquoi Dieu va consentir à ce que Satan atteigne Job, dans ses biens d'abord, puis dans sa santé ensuite. Pour que Dieu consente à ce que Satan porte atteinte et gravement atteinte à un homme qui est régulier, fidèle, qui est même un modèle de piété unique sur toute la terre, il fallait une raison forte. Eh bien, la raison forte, la voilà. Dieu, s'il laisse les choses ainsi, s'il n'a que des Job sur la terre, si les générations à venir ne lui apportent que des hommes comme Job, pieux peut-être, eh bien, il n'aura que des courtisans. Il n'aura pas de véritables amis. Croyez-vous que les rois, dans notre histoire de France, par exemple, aient été entourés de véritables amis? Il n'y a qu'à lire certains ouvrages qui nous dévoilent un petit peu ce qui se passait dans la cour de ces rois pour se rendre compte qu'il n'y avait qu'une façade. Il n'y avait qu'une façade. C'était des courtisans qui, dans le cœur, n'avaient absolument rien pour le roi. Eh bien, voilà, n'est-ce pas, ce que Satan prétend et ce qu'il présente à Dieu. Il fallait donc qu'il y ait là, dans la pensée de Dieu, une raison impérative pour qu'il ordonne à Satan, ou il lui donne la permission de toucher à Job. En somme, rien n'aboutit, rien n'est achevé, rien n'est réussi tant que l'amour n'est pas implanté solidement dans les cœurs jusqu'à y être définitif et parfait. Rien n'est fait sans cela. Et nous, chrétiens, chers amis, retirons cette leçon déjà. Voyez comme le livre de Job est capable, toute l'écriture, bien sûr, elle est une source inimaginable, une source merveilleuse de richesse et d'enseignements, mais encore est-il qu'il faut aller les prendre, ces enseignements. Eh bien, puissons maintenant cet enseignement. Si l'amour n'est pas implanté dans le cœur des hommes, il s'agit des hommes, laissons les autres créatures de Dieu, n'est-ce pas, il s'agit de nous. Eh bien, si l'amour n'est pas implanté, il n'y aura jamais rien de fait, aucun salut sur la terre. Je voudrais que nous, membres de l'Église, nous méditions bien une pareille chose. Il n'y aura rien de fait. Et rappelons-nous le chapitre 13 de 1 Corinthiens, je pourrais disposer d'une foi extraordinaire, comme jamais on en vit, où je pourrais donner tous mes biens pour les pauvres, je pourrais faire des choses éclatantes, si je n'ai pas l'amour, si ce n'est pas l'amour qui me le fait faire, je ne suis rien du tout, une sorte d'airain qui résonne, du bruit pour rien. Je ne fais rien de réel, je ne construis rien si je n'ai pas l'amour. Sans l'amour, rien, par conséquent, ne peut être fait. Le royaume de Dieu, royaume des cieux, est un royaume dans lequel toutes les créatures seront unies à leur Dieu par l'amour. Le lien, l'amour est le lien de la perfection, nous dit l'Épître aux Colossiens. C'est le ciment, les créatures hommes seront fidèles à Dieu, accompliront sa volonté pleinement et jouiront bien entendu d'une félicité éternelle parce qu'ils accompliront la volonté de Dieu, mais ils l'accompliront comment? Par la puissance de l'amour uniquement. Il n'y aura aucune contrainte dans le royaume de Dieu, aucune contrainte. C'est uniquement par l'amour, par la puissance de l'amour, par la projection de l'amour, n'est-ce pas? L'amour qui est le lien de la perfection, de l'état de perfection. C'est uniquement ainsi que se construira et que subsistera éternellement le royaume de Dieu. Alors, chers amis, Satan dit à Dieu, eh bien cet amour tu ne l'auras jamais. Tu peux rayer ton plan, tu ne l'auras jamais, tu ne l'as pas en Job, tu ne l'auras en aucun autre homme. C'est justement parce que tu dis de Job qu'il est unique sur la terre, que sa piété est exemplaire, il n'y en a pas d'autre pareil, eh bien tu vois. Et justement, cet homme exemplaire, pourquoi est-il si pieux? Parce que il est intéressé uniquement par l'intérêt. Alors, nous allons nous poser la question, Satan a-t-il raison? A-t-il raison de prétendre cela, qu'il n'y a pas en Job autre chose qu'un calcul intéressé et qu'il est pieux pour se procurer ces biens inestimables du bonheur, de la prospérité, de la sauvegarde de tout ce qui lui appartient. Satan a-t-il raison ? Hélas, oui. Hélas, oui. Il a raison. S'il n'avait pas raison, l'Éternel l'eût vite congédié. Il a raison. Il a raison. Je ferai cependant une réserve. Il a raison en partie. Mais il a raison. Comme il a raison devant le Seigneur Jésus-Christ, à première vue. Il a raison sans tenir compte des ressources de Dieu. Il a raison sur le moment. Mais il a raison. Au cours de l'épreuve, apparaîtront en effet en Job des sentiments absolument indignes de l'amour. Nous le verrons. Le mécanisme de ce vil intérêt se dévoilera. Job le dévoilera lui-même. Il l'ouvrira son cœur et l'on verra en effet que dans son cœur il y avait cela. Donnant, donnant. Moi je t'ai donné ceci et quoi, tu me refuses, maintenant tu ne me donnes pas. Le contrat est brisé. Nous trouverons ça dans le cœur de Job. La piété de Job était donc en bonne partie extérieure, elle n'était pas privée d'une certaine adhésion de son cœur, mais elle n'avait aucun enracinement dans l'amour. Et nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul nous parle de cet enracinement dans l'amour. Soyez enracinés dans l'amour. Vous n'obtiendrez rien, vous ne ferez rien si vous ne recherchez pas cet enracinement dans l'amour. Par l'Esprit de Dieu. Vous voyez comme véritablement notre position à nous d'enfants de Dieu nous apparaît sous son jour, son véritable jour. Il nous faut être enracinés dans l'amour. Soyez enracinés. Et le cœur de Job n'est pas enraciné dans l'amour, loin de là. Et il ira jusqu'à des reproches à l'égard de la justice de Dieu qui est parfaite et qu'il ne reconnaît pas comme telle, il ira jusqu'à des reproches, car Dieu a cessé de rémunérer sa piété. Dieu a cessé de rémunérer. Alors, il va réagir, il va finir par réagir en montrant en effet des sentiments qui sont absolument incompatibles avec l'amour. C'est là une des grandes qualités de l'Écriture qui, par le moyen d'un personnage, par le moyen des circonstances qui ont intéressé ce personnage dans son contexte historique, nous montre, nous découvre les grands problèmes que Dieu a résolus et que Dieu s'appliquera à résoudre tout au long de l'histoire. Tout ce qui lui appartient, je te le livre, dit l'Éternel Dieu à Satan. Dieu donc, après avoir écouté Satan, se détermine. Il accepte le défi de Satan. Et sa sainteté n'en souffre pas. Sa justice n'y trouve aucune atteinte. Voilà aussi quelque chose qu'il faut considérer. La sainteté de l'Éternel n'en souffre pas. Pourquoi ? Parce que l'Éternel, souverain, a en vue l'amour, le salut de ses créatures, le salut de Job. Le salut de Job. Et nous savons que Job est sauvé. C'est Ézéchiel notamment qui nous le dit. Le salut de Job, mais le salut de bien d'autres hommes. Il a en vue cela. Il a en vue cette œuvre d'amour. Il a en vue cette œuvre magnifique, tandis que l'autre, l'adversaire, le Satan, a en vue l'œuvre du mensonge et de la haine. La sainteté de Dieu, je dirais même qu'elle se trouve dans cette détermination qu'il prend de livrer tout ce qui appartient à Job à l'ennemi. Eh bien, je dirais que la sainteté s'en trouve encore rendue plus apparente. La sainteté de Dieu. Comme la sainteté de Dieu se manifestera avec éclat dans les jugements de la fin. Voyez l'Apocalypse chapitre 15. La sainteté de Dieu s'en trouvera comme manifestée d'une manière tout à fait particulière. La sainteté de Dieu exige en effet certaines actions, certaines opérations. Dieu agit, a dit le Seigneur Jésus. Dieu agit. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Mais Dieu se détermine et accepte le défi de Satan, non pas pour voir. Satan avait dit, on verra s'il ne te renie pas en face. C'est pourquoi j'ai voulu rectifier la traduction du verset 11 qui disait, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Non, on verra s'il ne te maudit pas, s'il ne te renie pas en face. On verra. Eh bien, le but de Dieu, ce n'est pas de voir. Ce n'est pas de voir ce que dira Job, ce qu'il fera. Cela, Dieu le sait. N'est-il pas, en effet, celui qui sonde les cœurs et les reins? Il sait ce qui va advenir. Il dispose d'une prescience. Il sonde. Il sait tout, mieux que Satan. Il sait ce qui va arriver. Il le sait. Donc ce n'est pas pour voir, mais c'est pour aboutir à ce que Satan ne désirait nullement. C'est pour aboutir à ce que Satan ne désire absolument pas, c'est-à-dire à transformer cet homme pieux, à le rendre capable d'aimer, en définitive, à le préparer au séjour éternel, le cœur rempli d'amour, d'un amour qui bannira la crainte calculée de Dieu. Il y a crainte et crainte de Dieu. Job avait une crainte calculée de Dieu. Eh bien, cette crainte calculée, comme dit Jean, n'est-ce pas, l'amour parfait bannit la crainte. Eh bien, Job sera rempli d'un amour qui bannira ce calcul, bannira cet intérêt, bannira cette crainte de l'Éternel qui n'est pas la juste crainte, qui n'est pas la crainte filiale. Voilà ce que Dieu veut faire et ce que Satan ne voudrait pas que Dieu fît, mais il fait toujours, et nous le voyons dans cette circonstance, une œuvre qui le trompe. Il vient accuser. Et c'est adroit son accusation, il touche Dieu, il atteint Dieu à un point extrêmement sensible, il soulève un problème universel. Oui, mais Dieu le prend au mot. Bon, eh bien, c'est entendu, touche à ce qui lui appartient. Tu ne toucheras pas à sa vie, mais tu vas toucher, tu peux atteindre librement ce qui lui appartient. Et que veut faire Dieu? Transformer Job. Il faudra la souffrance. Ah, le passage par la souffrance sera indispensable. L'homme n'est-il pas l'homme de la chute? Il faudra la souffrance. Mais ce que Dieu veut faire, il le fera, et ce ne sera pas un échec, mais au contraire un succès. Il aura dépouillé Job de tout intérêt caché. Et c'est ainsi que l'action s'engage. Dieu donne liberté à Satan de toucher à tout ce qui lui appartient, d'atteindre tout ce qui lui appartient. L'action s'engage et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Plus exactement, Satan sortit de la présence de l'Éternel, car il ne peut demeurer davantage. Dieu a accepté qu'il dise quelque chose dont Dieu allait se servir pour accomplir précisément une œuvre universelle et grande, mais cela fait, Satan n'a plus de place, Satan est obligé de se retirer. Alors, nous allons encore lire, avant de nous arrêter cet après-midi, les versets 13 à 19, les versets 13 à 19 qui nous décrivent les premières épreuves qui surviennent sur Job. Nous n'avons pas là très longuement à nous y arrêter. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé, moi seul, pourtant d'apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens, formés en trois bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. » Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » En un seul jour, ces quatre grands méfaits se produisent et sont annoncés à Job coup sur coup. La répétition, il parlait encore quatre fois, cela appartient essentiellement à l'art poétique de la langue hébraïque dont je vous ai un peu parlé en commençant cette étude. Il y a notamment, non pas des rythmes dans la poésie hébraïque, non pas des rimes, mais il y a des mouvements comme cela, des répétitions qui donnent certaines cadences au style, au langage, et c'est essentiellement à cause de cela qu'on peut dire que le livre de Job est un livre poétique. Mais qu'il soit poétique, il y a d'autres livres poétiques aussi, c'est une manière d'écrire. Il n'empêche que tout cela est parfaitement historique, bien entendu. Quelle épreuve ? Non pas une calamité malencontreuse, comme il peut en survenir sur la terre, mais quatre calamités en un seul jour, et des calamités de grand poids. Relevons de ce récit les possibilités destructrices de Satan, qui est capable de faire servir à ses desseins tant les hordes pillardes des Sabéens ou des Chaldéens, des hordes pillards qui jusqu'ici n'étaient pas venues. Elles étaient tenues en échec, si même elles avaient eu quelque velléité, quelque intention. Dieu les tenait en échec. Là, cette fois-ci, Dieu a retiré tout empêchement, puisqu'il donne permission à Satan d'utiliser ses forces, alors elles viennent. Alors, Satan est capable de faire servir à ses desseins les hordes pillardes, autant que la foudre, le feu de Dieu, la foudre du ciel, et autant même qu'un grand cyclone qui détruit une maison et la fait tomber sur ses habitants. Il n'y avait pas de facteur chance dans la prospérité Et le bonheur de Job avant ses calamités, lorsque ce bonheur se prolongeait, et c'était bien la toute-puissance de Dieu qui agissait. De même, maintenant, il n'y a pas de facteur fatalité. C'est la puissance adverse qui agit, selon une permission de Dieu. Avons-nous le droit de généraliser ces choses? Certes, oui. Il n'y a pas de facteur chance. Il n'y a pas de facteur fatalité. Il y a deux puissances qui sont en lutte. Il y a la puissance des ténèbres, la puissance du mal, et qui est mise en action par Satan. Et il y a la puissance de Dieu, la grande, qui est mise aussi en action par Dieu et par Jésus-Christ. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de fatalité. Pourquoi, dans le tissu de nos existences, à nous, hommes du XXe siècle, pourquoi y a-t-il cette imbrication de choses malencontreuses, désagréables ou éprouvantes, et de choses réjouissantes, de choses qui procurent le bien-être et le bonheur? Pourquoi cette imbrication? Pourquoi tantôt c'est d'un côté que cela vient, tantôt de l'autre? Ce n'est pas comme dans le cas de Job, où il y eut une grande période de prospérité, et puis tout à coup, les calamités surviennent ensemble. Nous, il semble que tout soit mélangé. Il y aurait certes matière à réflexion sur ce terrain-là. Mais ce que nous pouvons dire, chers amis, c'est que si nous avons dans le cœur, véritablement, un amour réel pour Dieu, et pour avoir cet amour pour Dieu, il faut aimer Jésus-Christ. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et nous ferons notre habitation chez lui. Aimer Jésus-Christ, et celui qui m'aime, qui est celui qui m'aime? C'est celui qui garde ma parole, qui garde mes commandements. Celui qui garde, c'est-à-dire qui est soucieux de leur observation, soucieux de n'en rien perdre, de n'en rien oublier, et qui les met en pratique. C'est cela. Et chers amis, si éclairés par le Saint-Esprit comme nous devrions l'être constamment, nous nous appliquions, le mot est dans la parole, s'appliquer, à mettre en pratique la parole de Christ, qui n'est pas une suite de préceptes et de règles, mais qui nous apporte une pensée, la pensée de Christ, qui nous donne du discernement, qui nous permet de savoir distinguer le bien du mal, et par conséquent de surmonter le mal par le bien. Si nous nous appliquions à ça, nous aimerions Jésus-Christ, et nous aimerions Dieu. Et je ne dis pas qu'il n'y aurait aucune épreuve pour venir nous frôler de son aile, mais cette épreuve irait bien vite loin de nous. Le malheur peut atteindre le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. En délivre toujours. Il y aurait cela pour que nous puissions simplement manifester notre confiance en Dieu et notre foi, mais nous serions triomphants. Si nous sommes triomphants dans le domaine de l'esprit, nous serions triomphants aussi dans le domaine de ce monde, dans le domaine de la vie, de l'existence. Chers amis, seulement nous nous laissons aller. Seulement, il n'y a pas en nous un amour suffisant, un amour vraiment réel. Et nous sommes un petit peu dans le cas de Job à ce moment. Il y a quelquefois un peu dans notre piété cette crainte qui contient le calcul, qui contient l'intérêt, qui contient l'intérêt. Et voilà pourquoi nous sommes éprouvés. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas toujours être pleinement bénis. Mais lisez l'apôtre Pierre, il vous dira que si nous agissons selon l'amour envers Christ et envers Dieu, eh bien, la vie devant nous s'ouvrira clémente, de par la volonté de Dieu, car Dieu ne peut pas faire autrement, même s'il nous soumet à l'épreuve, je dis bien, s'il nous attriste un peu par l'épreuve, c'est notre foi qui est éprouvée, mais cela ne doit pas durer, cela ne doit pas d'ailleurs nous apporter des maux qui s'incrustent dans notre chair pour nous labourer sans cesse. Non, ce n'est pas cela la volonté de Dieu. Si nous aimons le Seigneur Jésus, si nous aimons Dieu en gardant vraiment sa parole, avec vigilance, si nous veillons, au lieu d'occuper nos soirées, à quoi, chers amis? Songez à quoi vous occupez vos soirées et certaines de vos journées. Songez. Il y a un instrument que je n'aime pas beaucoup nommer, mais il faut quelquefois le faire, c'est la télévision. Et chers amis, quand nous sommes le soir, c'est-à-dire en somme le dimanche de nos journées, devant l'écran de télévision où le monde déverse ses horreurs, comment voulez-vous que nous prétendions à ce moment-là aimer Jésus-Christ et aimer Dieu, alors que Jésus-Christ nous a dit utiliser les veilles, c'est-à-dire les fins de journée particulièrement. Veillez et priez. Je le dis à tous cela. Veillez. Soyez avec moi. Alors, chers amis, c'est pas étonnant aujourd'hui que l'on puisse dire « Ah, il y a tant de gens éprouvés dans les églises évangéliques. Il y a tant de malades, par exemple. Il y a tant de gens qui pâtissent de toutes sortes d'adversités, de calamité. Pourquoi ? Je serais presque tenté de dire, il y a tant de postes de télévision aussi dans les maisons des chrétiens, chose qui ne devrait, chers amis, jamais être tolérée. Je dis cela non pas que la télévision puisse résoudre tout, mais elle est simplement, si vous voulez, un exemple, un test dont je me sers maintenant. Et je sais, chers amis, que le Seigneur est profondément attristé lorsqu'il voit ses enfants là goûter, boire tout ce qui sort de cette boîte du diable, au lieu de veiller, et c'est le soir, les veilles de la journée, le dimanche de la journée. Alors, chers amis, vous voyez que l'amour est en cause. Et le livre de Job nous montre que Dieu ne peut pas sauver, je le répète, si l'amour n'est pas d'abord, lui, mis en place. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. À cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et pour avoir l'amour les uns pour les autres, il faut que vous m'aimiez, moi, que vous aimiez votre Dieu. Ça, c'est le sommet, c'est le fait. Voilà, chers amis, bien des pensées qu'il nous faut retirer de nos méditations. Il ne s'agit pas là de faire un exercice plus ou moins intellectuel, il s'agit pour nous de comprendre, de pénétrer la pensée de Dieu, de savoir qu'elle est magnifique et riche, que notre Dieu nous aime tout autrement que nous pouvons le concevoir nous-mêmes, et qu'il désire, il a besoin de notre amour. Il veut que nous soyons des amis. Dieu s'entoure d'amis. Et nous ne pouvons pas être les amis de Dieu si nous sommes aussi les amis du monde. Pensons à ces choses, chers amis, déjà pour nous-mêmes, car il faut que nous retirions ces précieuses leçons de nos méditations. Que le Seigneur nous aide. Amen.